Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous. Vous savez, le magazine en deux temps et à deux vitesses, c'est la formule que j'ai trouvée cette année, on va l'exploiter au maximum. L'actualité et la musique live en première partie et les archives extraordinaires de France Inter en deuxième heure. Alors ce soir, l'actualité c'est Notre-Dame de Paris, 5 mois après l'incendie et à 10 jours des journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre prochains. Allez, je poursuis l'agenda. Une semaine avant l'ouverture de l'exposition du mobilier national créée pour Louis XIV, sans oublier le calendrier de nos invités, Benoît Lagane.
Mais oui, Lucie Branco, première femme à avoir été reçue compagnon du devoir, qui raconte son parcours dans un livre, On ne bâtit pas de cathédrale avec des idées reçues, qui vient de paraître chez Quairaut, ou celui d'Olivier Delagarde, journaliste en France Info et co-auteur du Dictionnaire. Amoureux du patrimoine qui vient de paraître chez Plon, un livre co-signé avec son père Pierre Delagarde. Et puis on a du coup invité Marc Bayard, responsable du développement culturel scientifique au Mobilier National, et Mathias Kiss, artiste et ex-compagnon du Devoir, qui a travaillé notamment à l'occasion de sa carte blanche, la Chapelle des Gobelins à Paris, va nous en parler.
Donc on revient ce soir sur l'enjeu du chantier de la cathédrale, et en particulier sur les moyens humains nécessaires et le savoir-faire utile à la sauvegarde et à la restauration du patrimoine. Quand je parle comme ça, j'ai l'impression d'être Stéphane Bern. Ah oui. D'œuvre et métier en péril, c'est la question du énervé. L'actualité musicale, elle est en péril ? Non. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre ?
Oui. Oui. Suite à la découverte de l'an 40, c'est le titre du nouvel album de Jeanne Chéral. Elle était avec nous hier, elle est encore avec nous aujourd'hui pour un nouveau titre en live dans quelques minutes.
Encore de la musique, ce sera dans le énervé la suite, France Inter plus de Black Session, l'émission live de Bernard Lenoir réveille nos nuits cette semaine. Retour sur une décennie 1992-2011 de concert totalement libre. Troisième épisode ce soir, Suède explose la Black Session du 31 mai 1999. De la Britpop sans Brexit, ça nous change. Allez, le énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Bien, je récapitule, on va bien parler du chantier de Notre-Dame de Paris, des chefs-d'œuvre en péril, de patrimoine, du devoir des compagnons du devoir. Mais d'abord, Mathias Kiss, vous êtes artiste, ex-compagnon du devoir, et c'est à vous que le Mobilier National a proposé une carte blanche en dialogue avec l'exposition créée pour Louis XIV à partir de mercredi prochain. Cette intervention que vous faites à la Chapelle des Gobelins à Paris, comment vous l'avez pensée ? Qu'est-ce que vous avez imaginé ?
Alors, je l'ai imaginé en réaction à mon parcours, forcément à ma formation académique. En réaction, c'était en essayant de projeter, d'amener tout mon savoir-faire et toute cette image d'Épinal, voire ce folklore, dans un univers plus contemporain qui parle à, aux gens de mon âge et aux gens d'aujourd'hui.
Pourquoi fallait-il réagir contre votre formation que vous dites académique, d'ex-compagnon du, de compagnon du devoir, en fait? Vous étiez quel type de compagnon, d'ailleurs? Quelle formation?
Alors, moi, j'ai une formation de peintre vitrier.
Hein?
Ah, je mets tout de suite les pieds dans le plat, c'est-à-dire que c'est pour moi c'était un peu entre le clergé et l'armée, et j'ai appris que Michael Jackson existait en sortant des Compagnons. Voilà. Bon.
Ah oui, d'accord. C'est à ce moment-là.
J'y vais fort un petit peu, mais c'est en partie vrai. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement très cloisonné, et j'apprends à me libérer de ça. Donc je suis en réaction, c'est entre un hommage et un manifeste. C'est entre les deux, c'est couper la tête de ses pairs, PIRS comme. Voilà, c'est ça que j'apprends à désapprendre.
Mais alors, qu'est-ce qu'il vous reste aujourd'hui pour pouvoir désapprendre et déconstruire les codes? Qu'est-ce qu'il vous reste de cette formation des compagnons du devoir?
Ah bah alors, j'ai envie de dire tout, c'est-à-dire que de la technique au regard, enfin, je leur dois tout, c'est, j'espère de dépasser cette chose-là. C'est que j'ai souffert longtemps, en fait, de pas pouvoir faire évoluer des, il y avait comme des dogmes techniques et esthétiques. Qui emprisonnait un espèce de carcan comme ça que j'essaie de faire sauter.
Vous travaillez sur quel chantier à l'époque quand vous étiez compagnon du devoir, peintre vitrier?
Tous les chantiers de tous les musées français, les ambassades à l'étranger. Mais enfin, c'est je suis resté très longtemps au Louvre, à la Comédie Française, à l'Opéra Garnier,
Notre-Dame aussi.
Notre-Dame un petit peu. Oui,
on va y revenir tout à l'heure. Lucie Branco, il y a beaucoup de compagnons d'artisans comme ça qui deviennent artistes par la suite.
Ouh, vaste question. Ah j'espère, oui. Bien sûr. Enfin, ça reste très ouvert, peut-être. Peut-être pas. Je les connais pas tous.
Ah, pour moi,
Mathias Kiss.
J'en connais pas. Parce qu'en fait, la restauration auquel je dois tout est l'inverse de la création. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'on te dit, fouille dans le bouquin pour aller faire comme il y a 300 ans. Ce qui est aussi une de mes grandes passions.
Combien de temps vous êtes resté d'ailleurs dans le compagnonnage?
17 ans.
Ouais.
En commençant à 14 ans.
Et vous, Lucie ?
Alors moi j'ai commencé, donc je les ai rencontrés en 95, mais mon parcours est différent puisqu'à l'époque c'était pas ouvert aux femmes.
Ah ouais.
Donc j'ai rencontré les compagnons en 95, j'ai pu accéder à la formation en apprentissage en 97 et j'ai été reçue compagnon en 2007. Donc grosso modo ça fait une vingtaine d'années si je me trompe pas.
Et comment vous êtes rentrée dans cette institution très masculine au départ ?
Au départ, c'est une rencontre. En fait, c'est une rencontre.
Dans un bar.
Ouais.
Dans un bar.
La pirogue dans le vieux livre.
La pirogue.
Vous connaissez peut-être, non ?
C'est écrit dans le livre.
C'est écrit dans le livre. Hein. On ne bâtit pas des cathédrales avec des idées reçues, mais avec des verres de trop, certainement, manifestement. Donc,
c'est
dans
vrai
un bar.
On bâtit beaucoup de choses. Oui, dans un bar. Et c'est vraiment leur état d'esprit, en fait. C'est ce que véhiculer ces jeunes hommes qui m'a transportée. Voilà, j'ai vu des jeunes hommes qui étaient fiers, droits dans leur basket, heureux, épanouis. Et moi, à ce moment-là, j'étais une adolescente un petit peu paumée. Et alors, j'avais déjà entendu parler des compagnons par un ami d'enfance. Et là, ça m'a vraiment fascinée. Et ensuite, j'ai pu rencontrer les compagnons en visitant véritablement la maison des compagnons de Villeneuve-d'Ascq, où j'ai vu plein de petits jeunes hommes comme ça, qui étaient comme des fourmis ou des petites abeilles. Et puis, d'atelier en atelier, je suis tombée dans l'atelier des tailleurs de pierre.
Et vous êtes devenue une tailleur de pierre.
Voilà.
On dit tailleur de pierre ou tailleuse de pierre ?
Vous avez lu mon livre. J'ai écrit tailleur.
Mais je sais bien, j'ai bien vu.
C'est pour ça.
Vous étiez un compagnon heureux, parce qu'elle a vu plein de petits compagnons très heureux, Mathias Kiss.
Lucie, je me reconnais dans votre description sur les petits hommes droits et fiers dans leurs bottes. J'étais très très turbulent enfant et je pense que ça m'a mis une forme d'autorité et de rail qui me servent encore aujourd'hui, bien évidemment.
C'est pour cette raison-là que vous êtes devenu compagnon du devoir, qu'on vous a envoyé à 14 ans pour devenir compagnon du devoir ?
Ah oui, ça c'est sûr, c'est pas moi qui ai choisi. À 14 ans, oui. Oui, oui. Oui. Si j'avais eu le choix, j'aurais fait. Mais enfin, ça c'est bien tombé. J'ai trouvé des valeurs, des pères. Comme moi, je dis souvent, mon métier m'a pas formé, il m'a élevé dans le sens une éducation qui remplaçait pour moi mes parents. Donc c'était fondamental.
Alors Lucie Branco, dans votre livre, vous racontez les difficultés que vous avez subies en tant que femme pour intégrer ce monde très masculin. Les femmes, faut dire que chez les compagnons du devoir, sont interdites sur les fameux tours de France obligatoires au sein du compagnonnage. L'internat n'est pas mixte. Et du coup, pour être compagnon, vaut mieux être interne. Comment vous avez déjoué ces interdits, justement, pour finir par être compagnon, tailleur de pierre ?
J'ai fait un tour de France en renard. C'est ce qu'on appelle en renard. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, quand ils ont accepté de me faire une formation en tant qu'externe, en 97, j'ai fait mon apprentissage, je me suis rapprochée de Paris, pensant que peut-être il y aurait une ouverture possible. Et j'avais donc un contrat professionnel en alternance et je pouvais me former donc avec les compagnons et puis en fait à ce moment-là le métier, donc la corporation qui était souveraine a refusé que je puisse continuer donc j'ai déjoué un petit peu les choses en allant me former à l'Institut de la Pierre de Rodez parce que les formateurs sont compagnons donc ça a été un petit peu mon idée de continuer à me former avec les compagnons mais d'une autre manière et après c'était un long parcours.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des femmes parmi les compagnons ?
Oui.
Depuis combien de temps ?
Depuis, alors, 2004.
Ouais, c'est quand même assez récent.
Tout à fait.
Votre surnom, c'était la Flamande.
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 Flamande tout court.
Pour quelle raison ? Oui, la Flamande, c'est un peu Jacques Brel. Ou autre chose, oui. Flamande, pour quelle raison ?
Parce que je suis de Lille, je suis originaire des Flandres.
Aucune imagination. Et vous, c'était quoi votre surnom, Mathias ?
Lame de 22, parce que les lames en dur font 22 cm et que j'avais la lame facile. J'étais très bagarreur.
Ah ouais ?
Oui.
Mais comment fonctionnent justement ces surnoms ? Moi, en vous lisant, j'avais l'impression que c'était des surnoms liés à la géographie, ce qui n'est pas le cas par rapport à
Mathias. Non, justement, c'est la dextérité.
Comment fonctionnent les surnoms que l'on donne chez les compagnons ?
Alors, on a deux entrées. On a l'adoption, en fait. Hein, pour partir sur le Tour de France, on va ouvrir nos portes au Tour de France pour les jeunes. Et c'est là qu'on va recevoir notre nom de province, c'est-à-dire de la région d'où on vient. Et ensuite, on a une autre partie qui s'appelle la réception. Où on doit faire un travail de réception pour prouver qu'on a la maîtrise et du métier et aussi la compréhension des valeurs chez les compagnons. Et là, on a un autre nom. On a un nom de compagnon qui est différent du nom de province. Et donc le mien, c'est la sincérité de Lille.
C'était pas mal. On dirait un nom de bateau.
Ouais.
Juste une dernière question. Non, mais c'est très beau, je trouve, la sincérité de Lille. On va revenir sur, bien sûr, après les travaux qui sont engagés par les compagnons. Mais une dernière question. Est-ce que vous vous souvenez justement des cérémonies, des rites de passage et plus tard de la cérémonie de réception, Mathias Kiss ?
C'est inoubliable, bien sûr. Oui.
Ça consiste en quoi, en fait?
En fait, c'est pour moi, je réemploie le terme de carcan, parce que pour moi, c'était une espèce d'autorité qui m'envahissait. Donc c'est aujourd'hui, j'essaie de me libérer de tout ça, mais c'était trop d'habitudes, trop de rites, trop de maîtres, trop de dates, trop de codes, en fait.
De votre côté, Lucie, parce que vous êtes dans le livre, vous avez un souvenir plutôt ému.
Oui, alors c'est marrant parce que justement, j'ai pas du tout le même parcours que Mathias. Donc, je sais pas si vous étiez à l'association des Compagnons du Devoir, mais enfin, moi, c'est là où j'étais. Et au final, ce que je me dis, c'est qu'en contrepartie, effectivement, il y a des codes, effectivement, il y a des règles. Et effectivement, c'est parfois un peu compliqué de pouvoir s'ouvrir, mais c'est ce qu'on fait. Et à l'association, en tout cas, on va vers le devenir des métiers. Et finalement, quand j'ai été reçue et adoptée, ça a été aussi une forme de libération, de compréhension, enfin, que nous, les femmes, on pouvait accéder à ça.
Je me permets deux remarques qui nous séparent. C'est que moi, j'étais très jeune et on parle des années 80, donc c'était aussi une autre époque.
Tout à fait. Olivier de Lagarde, comment vous regardez justement ce...
C'est très étonnant ce qu'on entend quand même. Parce que pour les gens qui connaissent pas les Compagnons du Devoir, les auditeurs, là je me dis, ils doivent se dire c'est une secte, ou c'est un truc un peu genre Harry Potter, avec des rites de passage...
Avec des bagarreurs. Des bagarreurs. J'ai eu mon balai d'or.
Mais heureusement que les Compagnons du Devoir existent, ils sont presque dépositaires d'un savoir-faire, mais heureusement aussi que la défense du patrimoine, c'est pas juste quelques spécialistes, et que ça appartient finalement à tout le monde aujourd'hui, et c'est ça qui est aussi important.
Marc Bayard, en tant que travaillant au sein du Mobilier National, quelle est la part des Compagnons du Devoir dans cette aventure?
Alors je dirais que on a entre guillemets rien à voir institutionnellement avec les Compagnons du Devoir, mais ce qui nous rapproche, c'est une histoire du temps, puisque les Compagnons du Devoir remontent à l'époque médiévale, et nous, le Mobilier National, on remonte notre institution déjà au XVIIe siècle et même au-delà. Et en fait, la force, certainement, de ces métiers et de cet esprit, c'est la temporalité longue. C'est en fait, on a traversé le temps, et on a traversé le temps parce qu'on a été toujours utile. Et je crois que c'est la problématique du patrimoine, en tout cas la nôtre au Mobilier National, c'est est-on utile au temps présent. Si on n'est pas utile, malheureusement, on disparaît. Et c'est un petit peu, et on travaille beaucoup, notamment avec l'Institut des matériaux souples, à Pantin, on travaille en adéquation dans des rendez-vous ou autres, on met un rapport pour justement promouvoir non pas uniquement un patrimoine, mais l'or du temps, si je puis dire, puisque...
Alors je vais rebondir là-dessus, parce qu'il n'a pas répondu à ma question. Il est toujours très bagarreur, Mathias Kiss. Je vous avais demandé, pour cette carte blanche, vous allez transgresser les codes, c'est ce que vous m'aviez dit. Mm-hmm. Quel genre de code? Les codes de l'or royal. C'est quoi les deux codes de l'or royal?
Alors l'or, c'est quand même un matériau qui est associé au pouvoir. Ça peut être pouvoir de séduction, pouvoir religieux, pouvoir politique. Moi, j'ai été le doreur chez les Compagnons. Ma plus grande partie de mon temps, c'était... Je m'étais spécialisé en dorure.
Et je rappelle ensuite que c'est un matériau que vous travaillez même dans le cadre de l'art contemporain encore aujourd'hui.
Exactement, j'ai conservé ça, bien sûr. Mais moi, je travaille encore tous les jours de façon contemporaine, mais comme un compagnon. C'est-à-dire que je travaille avec mes mains et avec les techniques des compagnons. Je n'enlève rien à ça. Juste en aparté, c'était le côté un petit peu le côté familial. En fait, c'est pas une secte, mais c'est une famille où il peut y avoir des tontons un peu lourds.
Que des tontons, des pères, des frères. Hein, vraiment, voilà. C'est difficile. Oui.
Donc il y a des familles où ça c'est bon. Mais je garde plein de bons souvenirs. C'est un petit peu comme si j'avais fait l'armée. Mais donc par rapport à ce
chaque fois qu'il rajoute un truc, c'est encore pire. L'armée d'air pris. Mais c'est comme si j'étais en prison.
L'armée, j'allais dire l'armée derrière les barreaux. C'est ses compagnons?
Ben, c'est moi, on m'a mis là-bas.
À 14 ans?
Je veux dire, il y a 300 ans, on m'aurait mis chez les moines, quoi.
Cette comparaison, ils sont encore plus détruits.
Voilà, c'était.
Bon, alors, les deux codes qu'il fallait transgresser.
Alors, maintenant, je suis très heureux de libérer la dorure, d'en faire des monochromes, C'est-à-dire, pour vous donner une image, le nôtre, en fait, pour moi, était un punk créateur il y a 300 ans. Ben, j'essaie, en fait, je trouve qu'à un moment, en ayant fait le tour dans les techniques, et en restaurant avec bonheur tous nos jolis monuments, j'ai eu envie aussi de faire un geste et apporté en création aussi, avec ce savoir-faire, et de pouvoir, on va en venir certainement par rapport à Notre-Dame, sur les choix après esthétiques et éthiques, mais donc là, moi, j'avais envie d'apporter aussi de la création à ce joli savoir-faire.
Marc Bayard ?
Oui, c'était en fait la carte blanche à Mathias Kis, c'était vraiment un accompagnement à l'exposition créée pour Louis XIV, parce que en fait, l'or, au XVIIe siècle, c'était une couleur du pouvoir, et c'est du coup une couleur de la distance, et de l'ornement. Et en fait, la carte blanche de Mathias casse ces deux aspects, je dévoile pas lesquels, pour que les gens le découvrent.
Il va falloir y aller.
En fait, c'est une couleur de la proximité, et l'ornement devient œuvre. Et c'est pour ça qu'on est dans une continuité et séparation, continuité, rupture par rapport à Louis XIV.
Eh bien, j'ai lu ma réponse.
Mes souvenirs sont flous et filent sans fin au loin de moi. Je tends la main, je les retiens. Et l'air contour vibrait. C'était hier, j'étais un autre.
Demandé et chanté par Barbagallo, un extrait d'un nouvel album à venir, Programmation Notre-Dame de Jean-Baptiste Audibert.
Le nouveau rendez-vous, des questions, beaucoup de questions sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame.
Nous sommes ce peuple de bâtisseurs.
Ravagés par les flammes du terrible incendie qui a stupéfié le monde entier.
Nous avons tant à reconstruire. Alors oui.
Laurent Goumard.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. D'ici 5 années.
C'est un chantier tout à fait exceptionnel. Ça va quand même redorer un peu le blason de l'artisanat français. Que tout compagnon rêve de réaliser, bien entendu.
Sur France Inter.
Alléluia. 5 mois après l'incendie qui a dévasté la cathédrale Notre-Dame de Paris, à 10 jours des journées européennes du patrimoine, chef-d'œuvre et métier en péril au NRV, avec pour en parler Lucie Branco des Compagnons du Devoir, l'artiste Mathias Kis qui s'en est libéré, le journaliste Olivier de Lagarde et Marc Bayard du Mobilier National. Benoît Lagarde.
Oui, Olivier de Lagarde, dans le dictionnaire, vous revenez donc sur l'emblème national.
Amoureux du patrimoine.
Voilà, dictionnaire amoureux du patrimoine. Vous revenez sur l'emblème national que représente Notre-Dame de Paris. Pendant l'écriture, bien évidemment, il y a eu cette incendie qui est avéré. Qu'est-ce que c'est venu complètement chambouler? Et vous, quelle vision vous avez justement de cet édifice?
Alors d'abord, c'est arrivé juste après la fin de la remise du manuscrit de ce livre que j'ai écrit avec mon père, hein, je tiens évidemment à le souligner. Parce que
Pierre Delagarde, créateur de Chef d'œuvre en péril,
de cette émission de télévision, c'est lui véritablement le spécialiste du patrimoine. Moi, je ne suis qu'un accessoire, on va dire ça comme ça. C'est à la fois, c'est évidemment un très mauvais souvenir, et c'est un symbole à double bâton, si on peut dire. D'abord, bon, évidemment, moi, tout le monde a été stupéfait par ce qui se passait à Notre-Dame. Tout d'un coup, tout un pays s'est rendu compte de l'impression, de l'importance de son patrimoine. C'est ça, qu'on soit catholique ou pas, qu'on soit français ou d'ailleurs, cette église, cette cathédrale en feu a stupéfié tout le monde. Et puis, voilà. Maintenant, Notre-Dame, c'est la cathédrale qui cache la forêt du reste du patrimoine, parce que finalement, tout s'est focalisé sur Notre-Dame, et bien sûr qu'il faut sauver Notre-Dame, mais il y a beaucoup d'autres choses à sauver, il y a beaucoup d'autres choses à faire, évidemment, hein, et c'est un tout petit peu agaçant. Alors évidemment, il y a beaucoup d'argent qui a été débloqué, un milliard pour Notre-Dame, mais...
C'est assez ou c'est trop? C'est n'importe quoi.
C'est-à-dire que ce qui est n'importe quoi, c'est de ne se réveiller que quand il y a un incendie de ce type. Il faut être vigilant, on doit être des vigiles, on doit surveiller tout ça, on doit faire attention à ce patrimoine, hein, le mot patrimoine d'ailleurs dans le littré, vous regardez, c'est ce que nous lègue les pères. Bon, c'est pas des vieux trucs, c'est pas des trucs qui sont hors sol. Ça veut pas dire qu'on n'est pas dans le monde d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a évidemment un héritage qui est finalement notre âme.
Les 5 ans que pronostique Emmanuel Macron, ça vous paraît réalisable, Mathias Kiss? Vous qui avez travaillé à Notre-Dame en 14 ans, vous y avez quand même mis les pieds comme compagnon du devoir.
5 ans, c'est non, c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi.
Oui. Oui. Enfin, avec mon expérience, 5 ans, c'est le temps qu'on mettait pour faire un mur en peinture. Donc,
Ah oui. Quand même.
Oui. Lucie Branco,
c'est bien fait.
Ouais. Ah oui, j'imagine.
Actuellement, il y a des experts qui sont en train d'analyser la structure, parce que c'est assez problématique, forcément. Donc, on ne peut pas se prononcer si ça sera 5 ans ou plus. Et moi, je ne peux pas me prononcer, puisque de toute façon, ce n'est pas ma spécialité et mon domaine. Mais une fois que l'expertise sera faite, ils vont pouvoir déterminer sur combien de temps il y aura des travaux, et puis peut-être envisager donc, soit une reconstruction à l'identique, soit un concours.
De toute façon, le temps, les 5 ans, c'est pas un temps de compagnon du devoir, c'est pas un temps de spécialiste, c'est un temps de politique.
Bien
5
sûr.
Ans, voilà, c'est un quinquennat. Macron, quand il dit ça, il fait de la politique. Bon, voilà, à tort ou à raison, mais enfin, on n'est pas du tout. Ce qui est très intéressant, c'est les bâtisseurs de Notre-Dame. À la différence des constructeurs d'aujourd'hui, c'est la grande différence. À l'époque, on construisait pour l'éternité. Aujourd'hui, on construit un bâtiment pour 30, 40 ans, et on se dit que c'est un bien comme un autre, finalement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fasse pas des choses extrêmement intéressantes, qu'il n'y ait pas des grands architectes aujourd'hui, mais on construit pour une durée très limitée. Ce qui avait été fascinant chez les bâtisseurs de cathédrales, c'est qu'on avait idée de l'éternité.
Alors aujourd'hui, oui, juste pour rebondir là-dessus, c'est que c'est pas les compagnons qui vont reconstruire Notre-Dame, c'est les entreprises qui vont embaucher des compagnons ou bien des compagnons qui sont entrepreneurs.
Mais le savoir-faire des compagnons peut être forcément utile pour ce type justement d'édifice.
Bien sûr, en tant que centre de formation. Évidemment, nous, notre objectif, c'est de monter en compétences, que ce soit les jeunes ou les adultes. Et donc, les compétences, on les a et on les connaît. Et on a besoin effectivement de jeunes pour tout ce patrimoine. Et les entreprises ont besoin de pouvoir monter en compétences aussi.
C'est une forme de label.
C'est-à-dire
quand vous parliez de compétences, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas compagnon n'est pas autorisé à travailler sur quelque chose de classé.
On n'est pas les détenteurs de tout le savoir, et heureusement qu'il y a aussi beaucoup de monde qui maîtrise et qui ont du savoir. Il n'y a pas que les compagnons. Mais
ce qui est intéressant, c'est que au moment de l'incendie a été aussi annoncé un plan gouvernemental, le chantier, un plan chantier pour justement aider et pousser à la formation de métiers techniques, en incluant notamment les compagnons, mais pas que les compagnons, parce qu'on déclarait qu'il manquerait pour pouvoir rénover correctement Notre-Dame, et c'était justement le secrétaire général de Compagnons du Devoir, Jean-Claude Ballanger, qui le disait, qu'il manquait 150 charpentiers charpentiers, 200 couvreurs, une centaine de tailleurs de pierre et de maçons. Marc Bayer, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut que ça s'accompagne aussi d'une formation nouvelle? Parce que vous, au Mobilier National, vous êtes aussi inclus par rapport à des campus particuliers avec des formations.
Alors nous, notre spécificité, c'est qu'on a une mission depuis 4 siècles de meubler les palais de la République et que l'on crée et que l'on restaure et que l'on forme. Donc on a créé un système où en fait tout est inclus, création, formation, restauration et collection. C'est un système presque qui devrait être dupliqué partout. On devrait penser la pérennité programmée, hein, aller dans le long terme, ce que je disais tout à l'heure. Et nous en particulier, on est fiers de pouvoir montrer aux Journées du Patrimoine le tapis de Notre-Dame qui a été retiré de Notre-Dame juste après l'incendie, sauvé de l'eau des pompiers que de l'incendie à proprement parler. Et justement, on peut restaurer ce tapis de savonnerie créé au 19e siècle parce qu'on a maintenu les savoir-faire. Et alors, comme je disais tout à l'heure, les savoir-faire, c'est pas du hors-sol. La formation, c'est pas du hors-sol. Il faut pouvoir former des jeunes, mais s'ils ont une utilité. Et le patrimoine ne peut être utile que s'il est dans le cœur battant de la ville. Il n'est pas uniquement un musée, il n'est pas uniquement quelque chose, entre guillemets, comme vous disiez, de quelque chose de mort. Il doit être d'une utilité forte. Et c'est cette besoin d'utilité qui va, du coup, déboucher sur un certain nombre de formations.
Le patrimoine, ce sont des métiers, des savoir-faire. Je vais vous raconter une histoire au Japon.
Olivier de la Garde.
Au Japon, qui est un pays fragile, hein, où il y a des typhons, où il y a des tremblements de terre, il y a un temple à Tokyo qui est censé recueillir l'âme des empereurs. C'est quand même donc un temple qui est quand même important. Il est entièrement démoli les 25 ans.
Oui, non, ils n'ont pas du tout une culture de l'antiquité telle qu'on l'a aujourd'hui.
Pourquoi ? Parce que ce qui est important, à la limite, c'est pas le temple en lui-même, c'est la façon d'être capable de continuer à le faire de la même façon invariablement, et on plante des arbres qui vont permettre de reconstruire ce temple dans 150 ans ou plus. Et alors évidemment, quand on parle de Notre-Dame, on se dit on va pas reconstruire entièrement Notre-Dame, mais...
Vous disiez tout à l'heure que la cathédrale Notre-Dame, c'était l'arbre qui cachait la forêt de tous les lieux à restaurer dans le patrimoine. Comment vous regardez ce plan Chantier de France qui a été annoncé pour justement pousser plus de jeunes à aller vers ces métiers, notamment de la restauration et du patrimoine?
Je le regarde évidemment avec beaucoup de bienveillance et en me disant qu'on revient de très très loin. Et c'est l'histoire finalement un petit peu de ce dictionnaire amoureux du patrimoine. Dans les années 60, au moment où l'histoire de Chef-d'œuvre en péril, l'émission de mon père, débute, on est sur une autre planète. Aujourd'hui, on va se parler tranquillement. Si vous êtes maire d'un village, que vous avez un moulin, que vous avez un lavoir, vous allez le restaurer, vous allez mettre des fleurs devant, vous allez l'éclairer le soir.
C'est la tyrannie du pétunia.
C'est une évidence. Il faut savoir que dans les années 60, on pensait qu'une chose, c'est de démolir les centres-villes. Le Corbusier, c'est un immense architecte. Le Corbusier, il avait comme projet de raser tout le centre de Paris, le Marais compris. Parce que il fallait reconstruire. On était dans la période de reconstruction, il fallait faire du neuf. C'est l'époque où, dans les fermes, on enlève les buffets de cuisine du 18e pour les remplacer par du formica. Il fallait être moderne. Et c'était évidemment contre ce courant, parce qu'on disait qu'on a foutu en l'air des tonnes de trucs merveilleux, quoi.
Mais qu'on retrouve aujourd'hui au plus. Juste une question à l'artiste que vous êtes, Mathias Kiss. Dans le débat, fallait-il reconstruire ou faut-il reconstruire Notre-Dame à l'identique ou faire appel à de nouveaux architectes, à des innovations? Vous pencheriez de quel côté? Aïe, aïe, aïe. Vous êtes posé cette question?
Aïe, aïe. Évidemment. Évidemment.
Dégainez votre couteau. Qui va parler, celui qui était enfermé ou celui qui s'est libéré?
Là, je suis honnêtement très partagé. C'est-à-dire que faire du faux vieux, j'en ai fait et je trouvais, enfin, c'est à 90% de restauration. Est-ce une restauration ou est-ce déjà une création? Enfin, donc à quel moment
Tout le monde est très embarrassé par cette question. Hein. Ouais, les gens qui vous disent avec une certitude, voilà ce qu'il faut faire, etc. C'est la foire russe. Hein.
Mathias,
pardon, 10% d'un meuble, s'il reste le pied d'un meuble et qu'on le refait à 90%, est-ce encore ce meuble?
Voilà. En fait, c'est ça, c'est toute la symbolique qu'on va mettre au travers du patrimoine. Et comme le disait Olivier, le patrimoine, c'est aussi nos racines. Et à un moment donné, donc la cathédrale, qu'elle soit reconstruite à l'identique ou qu'elle évolue, C'est ce que ce sera choisi et ce que les, c'est la symbolique qu'on va mettre à l'intérieur de ça qui est important.
Cette question, c'est une question journalière, quasiment à tous les instants au Mobilier National. C'est que quand on a un meuble, on se pose la question, quand il arrive, quel est son statut et à quoi il va servir? Si c'est un statut patrimonial, on va faire une restauration conservatoire, et il ne bougera plus. Si c'est un meuble qui va être dans l'usage, on va l'adapter. On va l'adapter, mais grâce à nos savoir-faire. Et c'est un peu cette question qui va se poser avec Notre-Dame.
Elle va dans l'usage, malgré tout.
Dans l'usage. C'est un lieu de culte. Donc quand même, il faudrait pas l'oublier. Donc du coup, quel usage doit-on redonner à ce toit? Est-ce que c'est une forêt que personne ne voyait, il faut le dire, mais qui préservait quand même des savoir-faire? Et comment repenser un usage de la foi de demain pour ceux qui ont cette foi-là? C'est peut-être ces questions-là aussi qu'il faut se poser. Et là où on a une très grande force quand même en France, c'est qu'on a les savoir-faire pour refaire, pour avoir les savoir-faire de l'époque, tout en étant de notre époque. Et ça, c'est quand même assez unique au monde. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ce double avantage.
Dans ce malheur, ce qui est quand même formidable, c'est que finalement, ça nous laisse une fenêtre d'action pour promouvoir le patrimoine, en fait. Et pour pouvoir proposer aux jeunes et proposer aux adultes de travailler de leurs mains et de travailler sur des bâtiments aussi prestigieux que Notre-Dame.
Comment ça? C'est la question que je viens de vous poser. Si vous me la reposez, c'est difficile.
Je ne comprends pas votre question.
Pourtant, c'est comment ça? Comment ça, des jeunes qui peuvent... Je ne vois pas le rapport, en fait.
Le rapport dans cette reconstruction de Notre-Dame, c'est qu'on va pouvoir proposer... C'est un excellent chantier pour proposer aux jeunes... et aux adultes de se former dessus, de se former au travers de ce chantier, en fait, voilà.
C'est comme ça que ça a été présenté.
D'accord.
Si je peux donner juste un avis sur la formation et sur le manque de jeunes, ou d'attrait des jeunes, en tout cas, sur nos métiers, c'est que je pense qu'en fait, il y a 50 ans, le grand public consommait de l'artisanat au quotidien. C'est-à-dire que d'un barbecue à une tapisserie, à un fauteuil, etc., tout le monde, en fait, consommait comme le boulanger du village. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu l'image d'Épinal. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, vous parliez de sec, mais ça peut être aussi de vieux fou avec sa blouse, son pinceau dans les cheveux et ses ongles noirs. Et c'est vrai qu'en fait, le fait de travailler que pour les monuments historiques, ce qui est un peu notre cas, parce qu'en fait, le grand public ne peut pas avoir accès, parce que on met beaucoup de temps, c'est très cher, et on est dans l'ère du jetable. Donc c'est vrai qu'en fait, ça aussi marginalise nos métiers.
On parle patrimoine ce soir dans le NRV. Je vous propose une nouveauté. C'est l'un des disques les plus attendus de cette rentrée, celui de l'Américain Justin Vernon, aka Bon Iver.
outside. Then you took me in the room and you offered up the truth. My eyes crawling up the window to the wall from dusk till dawn. Let me talk to him. Let me talk to him, huh? Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. Tall time to call your ma. Hey ma, hey ma. Tall folks, you know you mop it up, but you want it as your land. You're back and forth from flat.
Hey Ma, le premier extrait de Aïe Aïe, le nouvel album de Bon Hiver, la programmation fin d'été de Jean-Baptiste Audibert.
Chef-d'œuvre en péril, une enquête de Pierre Delagarde.
Ces bâtiments bien qu'amputés ont encore beaucoup de majesté et il aurait été regrettable que la Lucière ne trouve pas comme les autres abbayes de la Manche son sauveteur.
Laurent Goumard.
Il y a 2 ans, une chute d'arbre a emporté une grande partie du toit du vieux moulin. Notre patrimoine est une chance, maintenant c'est à nous de jouer.
Sur France Inter.
Ah, il y avait vraiment 2 rhétoriques, hein. Hein, au niveau de la prise de parole, quelque chose de magnifique, d'ancestral, de l'autre, autre chose. Dans 10 jours, les Journées européennes du patrimoine, on en parle ce soir avec nos invités, Lucie Branco des Compagnons du Devoir, l'artiste Mathias Kiss, le journaliste Olivier Delagarde qui vient de signer avec son père le dictionnaire amoureux du patrimoine, et Marc Bayard du Mobilier National. On vient de l'entendre parce que dans 10 jours, c'est aussi le lancement de la 3e édition du Loto du patrimoine. C'est important de célébrer comme ça le patrimoine avec le lancement du loto, Olivier Delagarde.
Bah, tout est important. Enfin,
avec une réponse comme ça, non, pas mais, les lois.
Le loto. Non, mais attendez, je vais vous répondre. Non, mais je vais vous
dire. Il y a une entrée loto, hein. Non, mais c'est pour ça. Une entrée loto, Laurent, à l'intérieur de dictionnaire amoureux du patrimoine.
Laurent Goumard, vous m'avez eu parce que repasser un extrait de chef-d'œuvre en péril entendant la voix de mon père il y a 40 ans. Il
est toujours là. Franchement.
C'est évidemment assez émouvant. Et écrire.
Quand il parle, il y a toujours de la musique classique derrière lui.
Écrire un livre avec son père, c'est évidemment aussi pas un acte totalement anodin. Hein. 3 ans, ça a été 3 ans de travail, d'effort, de plaisir. Enfin voilà, 3 ans de partage. Alors maintenant, oui, de l'auto, il faut en parler tant qu'on peut. On peut multiplier, évidemment, faire un loto du patrimoine, faire des journées du patrimoine, faire des émissions sur le patrimoine. Tout ça est important parce que le patrimoine est véritablement important. C'est ça, finalement, le message qu'il y a derrière.
22 millions, quand même, d'euros, hein, récoltés par le loto. Alors,
22 millions d'euros et,
c'est pas mal en 2018,
et 60 milliards récoltés grâce aux retombées du touristique, du patrimoine. Parce que si on a 100 millions de touristes qui viennent en France, hein, c'est pas juste pour nos beaux yeux. C'est aussi parce que on a un patrimoine qui est extrêmement riche, foisonnant, divers et qui n'est pas simplement un truc de vieux con, du amour du passé, qui est ancré dans une réalité, ancré dans une actualité. C'est parce que on sait d'où on vient, c'est parce que on connaît ce patrimoine qu'on peut s'envoler, aller ailleurs et accepter les autres cultures.
Autour de la table, qui a joué à ce loto? Marc Bayard. Vous êtes un mauvais citoyen. Vous n'avez pas joué. Mathias. Non plus. Benoît.
Non plus.
C'est pas possible, vous êtes des citoyens.
Mais moi, je ne joue jamais au loto. Joué,
non, moi, j'avais acheté on m'avait acheté un ticket.
Ah bah tu parles. Ça, c'est vraiment un journaliste.
On m'a acheté un ticket.
Gagnant.
Non, je vais vous dire. Je vais vous dire la vérité. C'est ma maman qui avait acheté un ticket de loto du patrimoine pour tous ses enfants. Voilà,
oh, c'était super.
C'était plutôt sympa.
Et Lucie.
Non plus.
Voilà, ben voilà. Voilà la France. Mais Marc Bayard, vous, comment vous regardez ces nouveaux outils, finalement, en politique, parce que finalement, c'est aussi un outil politique, créer un loto comme ça, pour trouver d'autres moyens économiques pour financer, justement, les politiques de patrimoine?
Ben, tous nouveaux outils, à partir du moment où ils fonctionnent, sont les bienvenus. Si les gens adhèrent, même la personnalité Stéphane Bern, si ça permet de rendre des amoureux du patrimoine des plus jeunes d'autres personnes, c'est extraordinaire. Stéphane Bern est venu l'année dernière aux Journées du patrimoine au Mobilier National. Le nombre de personnes qui voulaient le saluer est des jeunes. Donc, c'est pour ça, c'est très, très positif.
C'est un porte-drapeau, finalement.
Mais bien sûr, c'est pas...
Non, mais alors là, il y a encore problème par rapport à ça. C'est plutôt très bien fait.
Voilà. Là, la cause est bonne, quoi. Donc, allons-y.
Et qu'on invente de nouveaux outils de financement et que ce soit pas dans nos impôts, tant mieux, franchement.
Olivier Delagarde, dans l'introduction de votre dictionnaire, vous posez la question suivante à Stéphane Bern. Le patrimoine n'est-il pas connoté politiquement? Je vous retourne la question.
Mais oui, mais bien sûr. Mais attendez, bien sûr.
Je vous réponds.
Évidemment que vous allez répondre ça, Laurent Gomard.
Connoté, ça veut pas dire que je suis derrière ça.
Je vais vous expliquer. Évidemment, au départ, on dit c'est un truc de droite. Pourquoi ? Parce qu'on parle des châteaux, on parle des cathédrales. Donc on dit, les gens qui vont à l'église et dans les châteaux, c'est des gens de droite. Sauf que le patrimoine, c'est pas juste
bien
ça.
Bien sûr.
Le patrimoine, c'est aussi le patrimoine industriel. C'est aussi les gares. C'est aussi les bâtiments civils. C'est des témoins du passé. Absolument. Et donc, en fait, le patrimoine...
C'est le facteur cheval,
Je vais même aller plus loin. Quand vous voyez aujourd'hui le succès, finalement, de l'écologie, de la défense des sites, c'est la même chose, finalement.
Mais Stéphane Berg,
de dire, arrêtons de faire n'importe quoi, de démolir des beaux trucs qu'on a dans ce pays, que ce soit un magnifique paysage, avec des éoliennes, on peut y revenir, ou que ce soit... une église, comme c'est arrivé à Gesté il n'y a pas encore très longtemps, on démolit encore des bâtiments dans ce pays.
Marc Bayard.
Mais est-ce que les larmes, le soir de l'incendie, étaient de droite et de gauche ?
Mais non, elles étaient universelles, Marc Bayard.
Voilà. Donc, c'est une réponse. Cette tragédie est une réponse. Le patrimoine, c'est autre chose qu'une séparation purement idéologique.
Mathias Kiss. On voit opiné du chef. Vous dites bravo.
Bravo. J'ai un boss à côté. Bravo.
Alors ensuite, il est évidemment aspiré politiquement. On a déjà parlé. Macron a fait de la politique le soir de l'incendie de Notre-Dame. Alors ensuite, il y a des partis qui se disent on va plutôt aller là. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'un personnage historique de droite, de gauche, 300 ans après, ça n'a aucun sens.
Mais justement, quels sont les politiques qui ont le mieux compris cette histoire de patrimoine, d'après vous ?
Il y a Malraux, quand même.
Oui.
Malraux, justement. Alors, voilà quelqu'un qui est à contre-courant de l'histoire. Dans les années 60, au moment où on reconstruit la France, Malraux, il dit, on va faire une loi, quand même, pour sauver les quartiers anciens. Il est absolument, absolument visionnaire. Et puis, on peut remonter, comme ça, au 19e siècle. C'est marrant, c'est pas un homme politique. Victor Hugo, quand même, on en parle, il sauve Notre-Dame. Parce qu'on oublie un truc, c'est qu'au début du 19e siècle, il est question juste de raser Notre-Dame. Parce que les goûts changent. Le gothique. Gothique, d'ailleurs, c'est un mot inventé par Raphaël qui dit c'est un truc de barbare. Et il faut raser les bâtiments gothiques. C'est Victor Hugo, en écrivant son roman, qui sauve Notre-Dame de Paris.
Et plus récemment alors ? Parce que là, si on remonte Victor Hugo et Malraux...
Tout le monde y pense, Jack Lang...
Jack Lang, ça a été un...
En inventant quand même le Louvre, par exemple, pas uniquement, en mettant la pyramide de verre, il réinvente un patrimoine. Et aujourd'hui, on vient voir aussi la pyramide de paye. Mais chaque successeur de ministre arrive, tant bien que mal, à poursuivre cette politique-là. Après, c'est...
Non, ça c'est pas vrai. Non, attendez, ce qu'il faut dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon ministre de la Culture ? Un bon ministre de la Culture, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'autorité ou de malignité pour obtenir des budgets qui sont conséquents pour son ministère. Alors c'est vrai que Jack Lang avait obtenu en son temps les 1% pour la culture, c'est vrai que Malraux, avec le poids qui pesait, pas politiquement, mais vis-à-vis du général de Gaulle, il était capable de taper du poing sur la table. Alors on va pas faire la liste de tous les ministres de la culture qui avaient moins de personnalité, qui ne savaient pas négocier avec Bercy et qui sont obligés ensuite de gérer des bouts de chandelle. Et ils sont pas égaux, hein. Mais moi je peux le dire, oui. Peut-être pas.
Marc Bayard ne peut pas le dire, complètement censuré. Et Mathias Kiss, il peut le dire ?
Oh, bien évidemment qu'il peut le dire.
Lucie Brancon, en tant que compagnon du devoir, vous, qu'est-ce que vous attendez d'un ministère de la Culture, justement, en direction par rapport aux politiques du patrimoine ? Qu'est-ce que vous en attendriez ? Plus précisément, aujourd'hui.
Mais moi, très simplement, c'est qu'on puisse avoir une communication autour du patrimoine et des ouvriers, de ce qu'on peut faire avec le patrimoine, qui soit beaucoup plus large.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on puisse...
J'ai pas dit comment ça, parce que j'avais peur de me le renvoyer.
Allez hop !
Comment ça ?
Non, c'est-à-dire qu'on en parle plus. Vous-même, vous me disiez tout à l'heure que les Compagnons du Devoir, c'était pas connu, et très peu connu. Alors moi, étant dedans, effectivement, je connais bien. Mais c'est de pouvoir, en fait, vraiment changer les mentalités, et ça commence dès l'école. Ça commence aussi dans les familles. C'est de pouvoir remettre aussi l'artisanat et le travail manuel au même niveau que le travail intellectuel, par exemple.
Mais on a les mémoires qui flanchent rapidement. Je veux dire, moi, je suis tombé dans les métiers d'art il y a 7-8 ans. Avant, j'étais ailleurs. Et en fait, en 7-8 ans, on a fait un bond en avant sur les métiers d'art. Il y a les journées européennes des métiers d'art. Oui. Il y a l'Institut national des métiers d'art. Il y a une multiplication d'événements. Et puis, simplement, on voit les jeunes qui arrivent dans les formations. L'école Boulle, l'école du Perret. Ils ont une quantité de personnes qui veulent s'inscrire. Et pas uniquement des gens sans diplôme. C'est des bac plus 2, bac plus 3. Qui veulent de plus en plus être dans les métiers.
Il y a un engouement énorme.
Mathesquisse.
Alors, Marc, sans s'opposer à ce que tu dis, j'en reviens, évidemment, il y a un engouement, il y a une consommation culturelle, mais il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de dérive. Les gens n'achètent pas, ne consomment pas de l'artisanat. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est à la mode, à la télé, on adore quand le voisin le fait, mais pas son môme, tu vois, il ne faut quand même pas non plus délirer. C'est-à-dire que le dimanche, on emmène un peu comme aux zoos, les mômes au Viaduc des Arts, avenue Doménil, prendre en photo les derniers artisans. C'est un petit peu ça quand même aussi.
Oui, mais alors moi, je fais souvent la comparaison avec la nourriture. Il y a 30 ans, le bio... Oui, c'était réservé qu'à une élite, qui est vraiment, et c'était très cher. Ouais. Le bio, alors maintenant, il y a l'excès inverse, c'est un peu partout, et avec certaines des problématiques, mais ça s'est démocratisé, et ce mouvement est très récent.
Ouais, ça sera le mot de la fin. Sur une bonne nouvelle, on va se quitter sur une note optimiste. Merci à vous quatre. Tout de suite, on va partir en musique. C'est une nouveauté, ou presque, avec Marion Guilbeault.
Sur France Inter.
Session live, Marion Guilbeault. Elle était déjà là avec nous hier, seule au piano. Elle est accompagnée aujourd'hui.
Elle est accompagnée en plus pas par n'importe qui. C'est Sébastien Hogg qui joue de la basse et qui a réalisé l'album L'An 40
avec Jeanne Chéral.
Voilà, on va continuer à en découvrir en avant-première, en acoustique, quelques titres. C'est un disque qui risque de rester longtemps sur nos platines et dans nos playlists. Pour l'écrire, pour le composer, Jeanne Chéral s'est appuyée sur des disques de chevet, les compositions sérielles de Steve Reich et l'album culte de Fiona Apple, When the Pawn. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Sometimes... Fast as you can, c'est Fiona Apple, c'est en 1999, soit 20 ans avant l'an 40 de Jeanne Chéral. Elle s'est imposée également une méthode de travail pendant un an. Elle s'est isolée une semaine tous les mois avec pour objectif écrire une chanson par mois. Alors je vous rassure, elle n'est pas restée enfermée dans un seul endroit. Elle a beaucoup bougé à La Réunion, dans le sud de la France, en Auvergne, avant de s'envoler pour la Californie. L'an 40, c'est un disque de pop épanoui, une pop orchestrale à son zénith, le disque d'une femme qui mesure sa chance d'être libre. Vous allez nous jouer en avant-première un nouveau titre de cet album, Jeanne Chéral. Il s'appelle Racine d'or. Et de quoi parle-t-il ?
Alors, racine d'or, c'est mes racines, c'est mon enfance, c'est là d'où je viens, c'est mon terreau.
Elle prend racine où, cette enfance ?
C'est dans le Grand Ouest, c'est en Loire-Atlantique, là où j'ai grandi, à Herbray.
Ces racines, elles inspirent quoi ? Elles vous inspirent quoi ?
Dans la chanson, en tout cas, elles m'ont inspiré de la gratitude, de la reconnaissance, et puis c'est une manière de dire, c'est un peu un pilier quand même de savoir d'où on vient, quoi, tout simplement.
Et là, elle n'est plus dans son Grand Ouest, elle est dans son grand studio 621, dans le NRV, pour un nouveau titre de L'An 40 qui sort le 20 septembre. On va écouter Racine d'or.
Un chemin poudré de terre, rosé doré même l'hiver, juste à côté du château de ma mère. Les ronces envahissent la mare et les batraciens goguenards viennent nourrir nos plus beaux cauchemars. On y vole. Souviens racines d'or, je me souviens de tout. Combien d'années encore me ferez-vous tenir debout? Une mélancolie de l'être, un garde-fou posé par mes ancêtres, une rigueur toute paysanne, une tendresse pour les âmes et les esprits flottant dans les cabanes. J'y reviens, j'en repars, qu'il est doux d'être de quelque part. J'en repars, j'y reviens, et les ronces me griffent les mains. Sur mes cannes à plein temps, tandis que monte la colère du vent. Oh, racine d'or, je me souviens de vous. Les cailloux, les trésors et les jambes tatouées debout. Racine d'or, racine d'or, racine d'or, racine d'or, racine d'or.
Pas guitare, basse, piano et voix, celle de Jeanne Chéral. C'est un extrait de son nouvel album L'An 40 qui sort le 20 septembre. Elle sera en tournée un peu partout dans toute la France, à Sébaza, à Rouen, à Besançon, à Cherbourg, à Nantes, au Folies Bergères à Paris. C'est le 3 décembre. Elle était accompagnée par Sébastien Hogg à la basse et la prise de son, Mathias Alléon et Théo Gomard.
Merci à nos invités. Merci Marc Bayard, Lucie Branco. On ne bâtit pas des cathédrales avec des idées reçues. C'est paru chez Kéro. Olivier de la Garde, dictionnaire amoureux du patrimoine chez Plon. Le bonjour
avec
à votre
Pierre
père. Ben oui, j'allais dire le bonjour à votre père, vous voyez, et à votre mère aussi, l'acheteuse de l'auto.
Mathias Kiss,
créé pour Louis XIV, c'est prévu à la chapelle des Gobelins. Je signale aussi à venir la semaine prochaine l'exposition Profane invite Mathias Kiss chez Auditi dans le 3e arrondissement à Paris. Et c'est pas fini, on peut aussi découvrir votre œuvre actuellement à Lille, au Palais des Beaux-Arts, dans le cadre de l'événement Eldorado, jusqu'en janvier 2020. Et bien voilà, le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes pour plus de France Inter. Mais demain, au programme, ce sera quoi?
Nous sommes sur un bateau qui coule. Et quand le bateau, il coule, elle est où la droite? Elle est où la gauche? À votre avis?
Eh bien, on y pensera demain. Droite, gauche, c'est du passé.
Politique du patrimoine.
C'est du lourd. Bah oui, on reste dans le sujet. Je vous invite dès à présent à poser vos questions, interrogations, analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. En live, Marion.
Les murs du studio 621 risquent de se fissurer demain, Laurent, avec le rock très énervé des impétueux et épatants Last Train.
Mais ça fera du travail pour les compagnons du devoir. Le nouveau rendez-vous, c'est, vous le savez, deux fois plus de chances de nous écouter dès 18h sur franceinter.fr ou alors en podcast, ou alors encore mieux, 22h minuit à la radio. Oui, on y passe, comme tout le monde. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation. La programmation et la préparation est signée Virginie Rosic. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal avec Suède, version Black Session. À tout de suite.
Rendez-vous.